Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midi, les parents sont rentrés.
Bonsoir, il est 19h03 et vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et donc ce soir, pour ce Canu Info, on va commencer à l'international par un point sur l'Iran et donc notamment une attaque terroriste. On passera ensuite par le Yémen, donc, puisque l'Espagne ne vend plus d'armes à l'Arabie Saoudite, mais a priori en fait un petit peu quand même, elle aurait menti. On ira ensuite donc, du côté du national, où on essaiera de comprendre pourquoi Rabin n'est pas un révolutionnaire, contrairement à ce qu'il peut affirmer parfois. Ensuite, on ira du côté
de Paris et de ses canons à eau du 1er mai.
Merci. parce que vous ne savez pas ce qui était marqué sur la feuille, mais c'était vraiment difficile de s'en sortir. Et donc, un point local ensuite, où on parlera donc du procès de camarades qui ont enfariné David Klimmelfeld. Donc, ce procès a eu lieu jeudi dernier. Et on finira donc par un dossier très important, puisqu'il va nous parler de nos copains de l'Amphized et de la tentative de dédublinage collectif que nous allons tenter ces prochaines semaines. Vous allez comprendre en écoutant le dossier. Et on finira bien sûr par le traditionnel
agenda.
Oh yeah.
Alors c'est parti.
C'est parti.
Alors on va aller où exactement ? On va aller en Iran. Vous savez, le régime iranien et son peuple étaient dans la rue de Avas au sud-est du pays pour commémorer le début de la guerre entre l'Irak et l'Iran de 1980 à 1988. Quand quatre hommes en uniforme ont ouvert le feu sur les militaires et la foule qui est venue assister à la parade de l'armée. Environ 24 personnes ont été tuées et 53 personnes ont été blessées, dont des enfants, des femmes. Il faut dire ici que cette attaque a été l'une des plus meurtries dans le pays depuis 8 ans. Les victimes sont majoritairement les gardiens de la garde révolution. Il faut rappeler ici, c'est l'élite de l'armée iranienne qui est en grande partie touchée, dont un combattant qui a reçu les balles des assaillants sur sa chaise roulante et qui a succombé. Selon le porte-parole de l'armée, Abol Fazal, là, je vais arriver avec le nom parce que je ne sais pas comment on le pourrait prononcer, mais c'est Abol Fazal Sekarchi. Les blessés sont dans un état critique, je le cite. Ces commandos qui ont ouvert le feu ont été abattus. Comme d'habitude, vous savez, après chaque événement critique, chaque événement néfaste, le groupe État islamique revendique l'attentat. Mais même s'ils ont affirmé ils ont affirmé que les trois hommes dans une vidéo amateur font partie de leur rang. Mais le président Hassan Rouhani ne semble pas prendre cette revendication au sérieux. Selon lui, les responsables appartiennent au Forum populaire et démocratique des Arabes d'Avas, un groupe séparatiste arabe des Khuzestan. N'a pas fini parce qu'après, il y a eu des accusations de part et d'autre. L'Iran, pour sa part, pointe aussi le doigt des États-Unis et ses alliés dans la région, dont l'Arabie saoudite, dans un tweet publié plus tard dans son compte, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Jafari, laisse entendre, je le cite, des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger ont attaqué Adas. Toujours selon le diplomate, l'Iran considère que les parrains régionaux des terroristes et leurs maîtres américains sont responsables de cette attaque. Le porte-parole des gardiens de la révolution, quant à lui, il affirme que ceux qui ont ouvert le feu, c'est notamment ce groupe djihadiste, un groupe séparatiste arabe. J'en viens notamment pour dire qu'ici, il faut souligner que dans cette région, majoritairement, c'est le peuple arabe qui se dit abandonné. À un moment donné, il y a eu des manifestations même contre le pouvoir central. Le président Hassan a promis que la réponse de sa république à la moindre menace serait pas terrible. Alors, si on a misé à se poser la question, comment ces hommes ont pu pénétrer ou infiltrer parmi les gardiens de la révolution, qui sont d'ailleurs des élites formées pour empêcher de tels événements. On pourrait trouver des réponses dans ce qu'Ebrahami appelle des fournisseurs des informations et des propagandes aux terroristes. Donc, il pointe le doigt les États-Unis. L'Iran a convoqué aussi trois diplomates européens, celui du Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Pour l'Iran, il n'est pas acceptable que l'Union européenne ne mette pas sur sa liste noire les membres de ces groupes terroristes tant qu'ils ne commettront pas des crimes sur le sol européen. Quant aux accusations de l'Iran contre les États-Unis, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, conseille Rouhani de regarder chez lui. Les États-Unis condamnent toute attaque des terroristes n'importe où ces attentats auront lieu.
On continue à l'international avec ce qui se passe au Yémen et l'implication notamment de l'Espagne.
Oui, puisque le 4 septembre, le nouveau gouvernement espagnol a annoncé le blocage de la vente de 400 bombes de précision à guidage laser à l'Arabie saoudite. Donc vous savez, les bombes de précision à guidage laser, ce sont ces bombes extrêmement performantes qui évitent avec une précision incroyable les dommages collatéraux, comme par exemple ce 9 août où 40 enfants ont été tués dans un bus scolaire par une bombe livrée par les Américains et du même type. Donc le gouvernement espagnol, fort soucieux de ne pas vendre des engins de mort à un État qui vise indistinctement l'ensemble de la population yéménite, a décidé de bloquer la vente de ces bombes. Oui, sauf que ça, c'était le 4 septembre, puisque le 12, d'un coup, cette histoire de bombardement intempestif semblait bien bien loin. Madrid a en effet décidé de maintenir la vente. Mais alors, pourquoi subitement ces préoccupations humanitaires se sont-elles envolées ? Riyad aurait-elle cessé ses trop nombreuses exactions ? Que nenni, l'Arabie saoudite menaçait simplement d'annuler la commande de 5 corvettes. Alors les corvettes, c'est des bateaux de guerre pour les néophytes. Pour un montant de 2 milliards d'euros, la commande avait été confiée à un chantier naval andalou. Pour rappel, le Yémen est ravagé par la guerre depuis 2015. Alors, je rappelle très très rapidement les faits. En 2011, le régime est mis à mal par un mouvement de contestation d'ampleur dans la lignée des printemps égyptiens et tunisiens. S'ensuit une période d'instabilité qui verra finalement la prise du pouvoir en 2014 par des rebelles houthis. Alors, les houthis, ils sont zaïdistes, c'est une branche du chiisme. En réponse à cette offensive des houthis, l'Arabie saoudite va prendre la tête d'une coalition de plusieurs pays sunnites pour anéantir la rébellion à grands coups de frappes aériennes. Alors parmi ces pays, on retrouve le Koweït, l'Égypte ou encore le Qatar, qui sont de fort bons clients de l'industrie de l'armement française. Et l'Arabie saoudite, bien entendu, est largement armée par les États-Unis d'une part et la France d'autre part. Je ne cite que les deux meilleurs marchands de mort. Alors bilan de cette petite sauterie largement permise par l'Occident, au moins 10 000 morts et 60 000 blessés. Aujourd'hui, ce sont 8 millions de personnes qui sont au bord de la famine, dont 5 millions d'enfants. Et les trois quarts de la population yéménite a besoin d'une aide humanitaire. Alors, selon un rapport d'Amnesty International, La France a livré à l'Arabie Saoudite pour 900 millions d'euros d'équipements militaires en 2015, dont 115 véhicules blindés ainsi que plus de 700 fusils de précision. Donc selon le CIPRI c'est un organisme international qui recense les ventes d'armes notamment, on en avait parlé lors de notre dossier sur l'armement que vous pouvez retrouver. La France aurait donc fourni des véhicules blindés en 2016 ainsi que des navires intercepteurs alors même qu'il y avait le blocus maritime partiel du Yémen. En avril de cette année, Benjamin Griveaux se félicite plutôt de la bonne santé de l'industrie de l'armement française. En disant, je le cite, hein, il y a une industrie en France importante avec des milliers d'emplois à la clé sur cette industrie particulière qui est l'industrie de l'armement. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux, mais pour restaurer l'influence de la France dans certaines zones du monde, eh bien, c'est un élément important de notre diplomatie. Notre industrie a aussi besoin de trouver des débouchés sur ces marchés, la mort étant particulièrement rentable pour l'industrie de l'armement. Voilà, donc
bon, merci Benjamin.
Pour la France, il n'y a aucune ambiguïté. Et finalement, pour l'Espagne non plus, hein, puisque la commande de corvettes à 2 milliards d'euros a vite mis un terme aux velléités humanitaires du royaume. Alors voilà, on le redit sans cesse, mais il n'y a pas plus de capitalisme à visage humain que d'interventions militaires pacificatrices. Ces interventions, elles sont déterminées par le profit que les pays capitalistes dits avancés peuvent en tirer dans un contexte et une période spécifique de l'histoire. Les enjeux humanitaires de ces interventions militaires et plus généralement de la diplomatie internationale n'ont comme seul pilier que la reproduction du capital, le respect des droits humains que les démocraties bourgeoises portent comme étendard, l'étendard de leur sagesse n'est que de la poudre de perlimpinpin. Alors mort à la guerre et mort au capital.
C'est possible.
On espère, bah, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Alors, et pour dire non à cette guerre, eh bien, on écoute tout de suite solo les...
Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa,
solo
oui.
Solo le pido a Dios.
Ah, j'y étais.
Vamos a cantar todos juntos, gracias. Ok.
Vamos. Ahora vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Canu, pour le Canu Info du lundi, la plus rebelle de radio. Et c'était donc une chanson contre la guerre de Mercedes Sosa, Solo les Pido Adios. Et on passe donc au national sur un certain Rabhi. Rabhi, mais qui est-il ?
Oui, qui est-il ? Alors, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, mais Rabhi, Pierre Rabhi, c'est un agriculteur qui a écrit beaucoup de livres dans lesquels il prône la simplicité volontaire, le retour à la terre et la généralisation de la biodynamie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et il se trouve que son image d'humaniste a récemment été pas mal écorchée par une enquête de Jean-Baptiste Mallet pour Le Monde Diplomatique, qui en dresse un portrait un peu différent. Mallet, le journaliste, se fait depuis critiquer un peu partout pour oser remettre en question celui qui prône la révolution intérieure. Et pourtant, il y a des choses assez pertinentes à relever sur Pierre Rabhi et sur sa philosophie. Par exemple, Pierre Rabhi n'aurait pas vraiment de connaissances en agronomie. D'ailleurs, aucun de ses nombreux livres n'en parle vraiment. Il est dénoncé par plusieurs agronomes pour ses méthodes non scientifiques. La ferme des Amanins, qui serait le modèle en France de l'application de ses préceptes, ne serait même pas autosuffisante, malgré des dizaines de bénévoles pour la faire tourner. Ses préceptes en matière d'agriculture tourneraient autour de la vibration des astres et une sélection un peu aléatoire de méthodes à utiliser ou pas. Bon, après, il fait bien ce qu'il veut. La vraie question, c'est plutôt sur quoi se base-t-il s'il ne se base pas sur des faits scientifiques et sur la recherche et les expérimentations qui existent en permaculture ou en agroécologie. Eh bien, il s'inspire du divin, et plus précisément du magicien, comme il l'appelle. Pour lui, le retour à la Terre, c'est surtout parce qu'il s'est demandé pourquoi nous sommes sur Terre. Et nous serions sur Terre principalement pour la faire fructifier et pour nous reproduire. Quelle originalité ! A priori, rien de bien méchant s'il se contentait d'en tirer des méthodes mystiques d'agriculture. Mais croire que l'être humain est sur Terre pour une raison prédéfinie le mène à d'autres conclusions. Sur les femmes, par exemple, puisqu'il écrit dans la revue Kaizen en mai dernier « Il ne faudrait pas exalter l'égalité. Je plaide plutôt pour une complémentarité. Que la femme soit la femme, que l'homme soit l'homme et que l'amour les réunisse, évidemment. » Et le discours essentialiste ne s'arrête pas là, puisque si la femme doit être la femme et que l'homme doit être l'homme, vous vous doutez bien qu'il doit y avoir un problème avec l'homosexualité. Je vous le cite encore une fois. Je considère comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle, alors que par définition, cette relation est inféconde. Et il est forcément aussi contre la PMA, parce que comme les pesticides, c'est pas naturel. Alors oui, Rabhi dénonce les excès de la finance, la marchandisation du vivant et les dérives de la technologie. Mais ça ne devrait pas nous dispenser de critiquer son discours dans son ensemble. D'autant plus qu'il a un discours plus que limite sur les façons de combattre le système d'exploitation et de production actuel. Il se borne à parler de solutions individuelles, de transformations personnelles pour obtenir un changement général. Non seulement il ne critique pas l'organisation de la société en ensemble de systèmes de domination, mais en plus il nie l'intérêt d'analyser les problèmes par ces biais-là. Il critique les gens qui pensent à travers les mécanismes, au travers des mécanismes sociaux, sous prétexte qu'ils passeraient à côté de quelque chose d'impalpable, à savoir la spiritualité. Chacun fait son petit truc dans son coin, tout ira bien dans le meilleur des mondes et on risque pas de s'organiser ensemble pour s'opposer à ce que peuvent nous imposer les multinationales comme Monsanto. Comme si s'occuper de son jardin allait empêcher les pollueurs de polluer et les exploiteurs d'exploiter. Comme si, parce que certains peuvent et veulent passer leur journée à jardiner, c'était à la portée de tout le monde et que tout le monde pourrait le faire. Alors oui, il y a l'école du Colibri, structure associative de Pierre Rabhi, qui propose des formations en agronomie. Mais encore faut-il avoir accès à un lieu à cultiver. Et puis surtout, encore faut-il les payer, ces formations. Car le savoir, ça se paie aussi chez le défenseur de la sobriété volontaire. On paie aussi pour visiter la ferme des Amanins ou encore y séjourner et découvrir la sobriété heureuse. Presque 350 euros pour 4 jours. Bref, tout est payant. Sauf peut-être pour les bénévoles qui peuvent venir travailler à la ferme, 5 heures par jour, en échange du gîte et du couvert. Ce qui est, dans ce cadre tout à fait légal, ça s'appelle du woofing. Apparemment, en vrai, il faudrait travailler bien plus de 5 heures par jour et certains partiraient en claquant la porte, se plaignant d'être exploités. Mais eux, ils n'auraient rien compris au message de Pierre Rabhi. Sortir du système, c'est accepter de travailler pour autre chose qu'un salaire et de donner. Pourquoi pas ? A priori, je suis plutôt d'accord. Mais pourquoi quand c'est l'école du Colibri qui donne et qui partage, pourquoi dans ce cas-là, c'est payant et cher ? Pour parler un peu argent, l'article du Monde Diplomatique énumère aussi les nombreuses conférences données par Pierre Rabhi et estime ses revenus à 7000 euros par mois. 7000 euros qui ne seraient pas reversés à son association ni à personne d'autre. Il y a eu un démenti, apparemment il ne toucherait que 3500 euros par mois. Mais c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui déclare ne vivre avec rien. Et puis il y a le hameau des buis, projet d'éco-village.
J'aimerais bien avoir rien comme ça.
Ouais, on est tous on aimerait bien tous. Et puis il y a le hameau des buis, donc un projet d'éco-village où les familles qui s'y installent payent bien sûr un loyer, mais surtout doivent venir avec un apport financier d'au moins 75 500 euros. Et puis les multinationales qui critiquent publiquement un petit peu, en fait, il les côtoie. Il les sensibilise, qu'il dit. Puisqu'après tout, Weleda, McDonald's ou Danone, s'ils nous vendent de la merde, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est pas parce qu'ils veulent surtout gagner plein de thunes. Et pareil pour le gouvernement. Puisque d'après Pierre Rabhi, je le cite là, Macron, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas simple, il est de bonne volonté. C'est la complexité du système qui fait qu'il n'a pas les mains libres. Et c'est comme ça que Carrefour, après avoir annoncé il y a quelques mois la fermeture de 273 magasins, la suppression de 2400 emplois en France, peut se permettre de se revendiquer d'un humanisme planétaire et de dire que grâce à Pierre Rabhi, c'est la volonté de Carrefour que de changer le monde. Au fond, Pierre Rabhi, il sert surtout à l'image écologique des grands groupes. C'est un interlocuteur bien pratique, puisque pas virulent. Mais non, Pierre Rabhi n'est pas un révolutionnaire. Non, il ne va pas changer le monde. Pierre Rabhi, c'est une image, un concept qu'on veut vendre aux classes moyennes, qui cherchent à donner un sens à leur vie, et qu'on peut vendre aussi aux multinationales pour se forger une image écolo sans trop investir. Il y a peut-être une certaine satisfaction à être capable de produire soi-même sa bouffe, à ne pas avoir l'impression de participer à l'exploitation des travailleurs, à la pollution et à la déforestation pour se nourrir. Et tant mieux si certains s'y intéressent. Mais il ne faut pas appeler ça changer le monde, ni remettre en question le système actuel. Il est même dangereux de tout mélanger, puisque croire qu'on agit en plantant ses carottes et en recyclant ses emballages, ça empêche de se poser la question de comment agir vraiment et collectivement. Il n'y a pas de solution individuelle face aux exploitations structurelles, quelles qu'elles soient. Et c'est d'autant plus dangereux quand on construit une argumentation sur de la spiritualité et non pas sur des faits. Quand on demande à Pierre Rabhi si ça le dérange que toutes ces initiatives individuelles ne changent pas vraiment les choses, il répond « Ça ne me pose pas de problème, car je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, je changerais les choses. Je ne suis pas Dieu. » Donc, si on n'arrive pas à changer quoi que ce soit, on ne va pas trop insister. Après tout, les pauvres, les riches, les exploitations, c'est la volonté de Dieu. Pour finir, et je ne vais pas développer parce que j'ai déjà été un peu longue, si
non,
vous voulez
non, c'était bien.
Encore vous amuser,
change rien.
Ça parce qu'on est un peu léger aujourd'hui.
Non, non.
Si vous voulez encore vous amuser avec la famille Rabhi, vous pouvez aller voir sur Rebellion, il y a un article de 2015. Il y a un article de 2015 qui parle de ses fils et de leur lien avec l'extrême droite. C'est aussi intéressant.
Alors on enchaîne toujours au national, donc avec une fumeuse histoire de canon à eau.
Alors, une fois n'est pas coutume, c'est le Parisien qui nous a révélé une nouvelle petite farce de la police. La composition de l'eau des désormais habituels canons à eau qui accompagnent nos cortèges.
C'est quand même drôle ces flics. Hein.
Donc normalement, on retrouve dans la citerne de l'eau ou des émulsifs, c'est-à-dire le même liquide qui est utilisé par les pompiers pour les incendies. Et ce 1er mai, à Paris, les manifestants ont eu le bonheur de se prendre dans la gueule un mélange de protéines de viande macérées, de sang séché et d'os broyé, de la pâtée pour chien ou un truc pas loin quoi. On comprend les interrogations de certains sur l'odeur pestilentielle qui se dégageait de ce liquide immonde. Et Jean-Michel, enfin c'est moi qui l'ai baptisé comme ça, opérateur interrogé par le Canard Parisien, de dire les manifestants ont été réellement surpris. Tu m'étonnes. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. La bonne blague. Oui, ça se tient. Pour ma part, j'aurais pas spontanément pensé qu'on me jetait du cadavre pourri dessus. Ah bah on s'est bien marré avec Roger dans le cockpit. Hein. Ça nous rappelle sans rire le skunk ou dirty water utilisé par la police israélienne. Cette charmante méthode de répression existe en effet en Israël depuis 2004. Elle est utilisée directement sur les manifestants ou a posteriori comme mesure punitive. Ainsi, durant la guerre de Gaza à l'été 2014, un camion blanc venait arroser les rues de Jérusalem-Est après chaque manifestation à l'aide d'un liquide nauséabond qui imprégnait même l'intérieur des maisons, les rideaux, les meubles, tout ça, pendant plusieurs jours. Alors merci le ministère de l'Intérieur pour trouver de si belles inspirations pour nous réprimer. On apprend également dans ce papier fort instructif que l'utilisation des PMC, donc produits de marquage codé, est toujours bien dans les tuyaux. On en avait justement parlé à l'occasion du 1er mai dans l'émission. Ces marqueurs inodores et invisibles peuvent rester 3 semaines sur la peau et ils sont détectables à l'ultraviolet. Et on apprend aussi qu'une détection est possible depuis un hélicoptère. Youhou, on n'arrête pas le progrès. Voilà, les capitalistes ont décidément plus d'un tour dans leur sac pour assurer leur rente et nous réprimer. On les remercie pour leur trouvaille de génie.
Pour leur inventivité surtout, franchement. Alors, on enchaîne avec une autre chanson hein, qui s'appelle donc « Je suis fils » et c'est de Corrigan Fest. Et non, ça c'était le générique hein. Alors,
on va enchaîner.
Alors, on va enchaîner donc non pas avec cette chanson. Donc, on vous invite à l'écouter sur Internet avec donc les
on peut enchaîner avec la chanson. Si
ah,
tu veux.
On peut enchaîner avec la chanson. Très
allez,
bien.
La chanson.
Allons-y.
Thank you. Je suis fils de marin qui traversa la mer. Je suis fils de soldat qui déteste la guerre. Je suis fils de forçat, criminel évadé. Et fils de fille du roi, trop pauvre à marier. Fils de coureur des bois et de contrebandier. Enfant de cette nation et fils d'aventurier. Métis et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché. C'était sujet de honte, j'en ferai ma fierté.
Alors, on enchaîne donc, on est toujours, et vous êtes toujours, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi, et on est donc toujours dans le point national, et on va vous parler d'un certain Gégé.
Oui, parlons de Gérard Collomb. L'info n'a pas dû échapper à tous les Lyonnais qui n'avaient pas été mécontents de le voir partir. Gérard Collomb a annoncé son intention de quitter le gouvernement en 2019 pour revenir se présenter au municipal à Lyon. Par contre, il n'a pas l'intention de quitter le gouvernement sans en avoir profité pour changer 2-3 règles qui le dérangeaient un peu. Il a en effet annoncé vendredi dernier, à la clôture du congrès du syndicat d'officiers de police SCSICFDT, que la garde des Sceaux Nicole Belloubet présentera dans quelques semaines un projet de loi auquel il a participé. Au programme, plein de réjouissances, comme la suppression de l'obligation de présenter devant un juge une personne gardée à vue plus de 24 heures, donc en gros plus besoin de se justifier pour garder quelqu'un 2 ou 3 jours. Possibilité aussi pour les policiers de pénétrer de force dans un lieu privé pour interpeller un suspect sans avoir besoin d'un mandat ni d'un flagrant délit. Apparemment, il est aussi prévu d'autoriser les policiers à enquêter plus longuement sous pseudonyme. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on verra bien quand le projet de loi sortira. Et Gérard en a profité pour annoncer un renforcement des effectifs dans les zones où la violence contre la police a augmenté. Et 2000 postes supplémentaires pour la DGSI, pour encore et toujours super. Lutter contre le terrorisme.
Ah, mais merci
DGSI,
Gérard.
C'est les services de sécurité intérieure.
Et il revient à Lyon après, on en est quand même fort heureux parce qu'il nous avait sacrément manqué.
Puis probablement que ce gros gauchiste de David Kimmelfeld a osé lui faire quelques coups de traître. Alors donc il faut revenir à droitiser tout ça parce que c'était insupportable, hein, vraiment.
Oui, parce que cet été, il a rencontré Déba, le patron du PS local.
Ouais,
et je
ça.
Crois que ça a mis colère, Gérard Collomb.
Comment ça un socialiste alors que c'est La République En Marche maintenant.
Voilà, donc on a vraiment très très hâte de le voir revenir. Je pense qu'on préparera un petit dossier pour son retour, pour lui faire honneur.
Et puis lui et maintenant sa femme aussi, hein, qui, rappelons-le, ou pour information, est présidente de La République En Marche pour le Rhône, Rhône-Alpes même, je crois, et qui a donc a aussi de beaux projets d'avenir, hein, pour la métropole et la mairie lyonnaise, cette Caroline Collomb.
Ah ben on va être entre de bonnes mains.
Mais oui, mais nous voilà rassurés. Ils ont fait un bon ménage en plus autour d'eux, donc... Je pense qu'ils vont avoir...
Ils ont l'habitude de le faire depuis plusieurs mandats, donc là, ce retour laisse vraiment présager de belles années. Hein.
On est fort heureux. Et d'ailleurs, en parlant de David Kimmelfeld,
mais incroyable, mais quelle transition.
Ce vendredi, ce jeudi, on vous l'avait annoncé lundi dernier à l'émission, des camarades passaient en procès pour avoir enfariné David Kimmelfeld l'année passée.
Février.
En février dernier, donc il comparaissait ce jeudi. Alors il y avait pas mal de monde au rassemblement. À l'extérieur, il y a eu un procès de la métropole qui n'assume pas les fonctions qui sont pourtant les siennes, notamment d'hébergement des mineurs isolés. Et bon, j'annonce tout de suite le verdict pour ce qui est de la métropole. Elle a été condamnée, bien entendu.
Bien sûr, c'était un procès populaire. Hein. Voilà, c'est pas la justice bourgeoise qui a sanctionné. Non, non, c'était...
Et par contre, les camarades n'ont pas eu le rendu de leur procès qui sera le 5 octobre. Donc voilà, restez informés. Il y aura sûrement besoin de les soutenir, notamment financièrement, s'ils ont des amendes. Et de toute façon, il y a toujours besoin de les soutenir pour payer les avocats. Donc là, on ne peut que vous inviter à donner de l'argent à la Caisse de solidarité.
Voilà, et on le rappelle, tous les premiers jeudis du mois, hein, à l'atelier des canulars, il y a donc un bistrot, le bistrot de la Caisse de Sceaux. Donc c'est pour donner du pognon à cette Caisse de Sceaux qui soutient les gens, les camarades qui se font donc interpeller.
Et avant de passer à notre dossier avec les copains, les camarades de l'Amphiz qui demandent à sortir de la procédure Dublin, on va écouter une chanson.
Alors, on va écouter un morceau qui retrace le parcours des candidats à l'immigration irrégulière. Une triste situation qui, de nos jours, endeuille le continent africain par le nombre élevé de morts dans le désert ou pendant la traversée de la mer Méditerranée. Alors, c'est parti avec Degifostri Fale.
Ntambara bonfato ngontambara sankiriso. Ntasiga. Ntasiga, tambara bonfato ngontambara sankiriso. Abimuna alo pari dollar na États-Unis. Mvanga katanga sangue feng. Bimuna alo pari dollar na États-Unis. Mvanga katanga sangue feng. Nu fambang eti mane umbe. Mfawa sara mane mbabe. Fonfa umma tore nyamane. Wada wa ua mameti. Nu fambang eti mane umbe. Mfawa sara mane mbabe. Fonfa umma tore nyamane. Wada wa ua mameti. Est aride, des dunes de sable à perte de biche perdue, Malik. J'ai cru avoir un bon deal, le passeur m'a dit que c'est tout facile, tout près le paradis. Le désert, son visage et sa misère. La mort dans la peau, les charognards, les vipères. J'ai eu si soif que j'ai vu ma pisse. Loin de ma famille, je vis l'enfer, j'agonise. Je m'évanouis. Tu réveilles dans un camp d'esclavagiste. Attaché, séquestré, emprisonné. Torturé, balafré, maté au fouet. Cruelle réalité, mourir mon seul souhait. Le prix de mon exode s'avère trop élevé. Le cauchemar se poursuit, la mort rôde. La mer a bouffé Samba et sa troupe. La Méditerranée nous a pris tant de vie. Partir c'est bien, mais pas sans Kaidi. Miahi miyi, mitambi mi arti. Comme yi konton no anini. La wangolo wulbini, mindé den no suti. C'est bim ronki, j'arrête de nous willy.
Ne tombe pas, mais il va aller. Ne traverse pas, mais il va dire quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée.
Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. La mère elle t'assassine, la mort t'attendra.
Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la famille finir affamée.
Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. Le désert t'assassine, la mort t'attendra.
Alors c'était là, Deggifostri Fallait, vous avez écouté dans son chant et ça a commencé même à avoir, on a commencé même à débattre.
Ah, il y avait presque un débat, mais bon, l'antenne revenait, alors vous êtes toujours d'ailleurs sur Radio Canu.
La plus rebelle des radios.
Et on passe donc immédiatement à notre dossier. Alors aujourd'hui, on a deux invités, deux habitants de l'Amphizède. Bonjour à vous, merci d'être là, les gars.
Merci.
On va parler un petit peu d'une part de l'Amphizède et d'autre part, donc l'Amphizède, un squat à Villeurbanne, et d'autre part d'une manifestation qui va avoir lieu mercredi et d'une procédure que le collectif Amphizède est en train d'entamer pour dédubliner un certain nombre de personnes. Alors on va parler de tout ça, donc d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un ou l'autre ce qu'est l'Amphizède et son histoire, puisque l'Amphizède a une histoire.
Pour les auditeurs qui n'auraient pas encore suivi ça.
Ouais.
Et merci de nous inviter à cette radio. Et l'histoire de l'Amphizède, c'est une longue histoire qui est partie de la part Dieu. Sous le hall de l'hôtel Athéna, là où on a occupé le lieu pendant des mois.
C'était vers quelle période à peu près?
Plus de 6 mois pour d'autres personnes, pour deux plus de 8 mois.
C'est en 2017.
En 2017.
À l'automne, oui.
Et du coup, on a eu assez de problèmes avec l'autorité lyonnaise. Et à chaque fois, il y avait des problèmes internes d'expulsion parce qu'on était mal vu, parce que des gens venaient manger juste à côté de l'hôtel. Et je sais pas, un jour, les forces de l'ordre en civil sont arrivées pour nous dire, bon, franchement, vous devez quitter le lieu. On a insisté, nous sommes restés, ça a continué. Et le jour qu'ils se sont décidés de nous expulser, ça, c'était le 10 novembre 2017. Il y a eu des disputes entre les forces de l'ordre et les occupants. Et du coup, on a tout faire et du coup, ils nous ont dit de quitter. Entre-temps, il y a une équipe qui est allée voir le maire du 3e arrondissement qui ne nous a pas donné une solution favorable. Nous sommes partis voir le préfet, pareil. Et du coup, on s'est retourné, on a fait le compte-rendu de ce qui s'est passé à la mairie et à la préfecture. Ça coïncidait l'arrivée d'autres étudiants de Lyon 2.
De l'Université Lyon 2.
De l'Université Lyon 2. On a discuté avec eux et du coup, ils nous ont invités à aller regarder un film qui parlait de la migration. Après le film, il y a eu des débats où certains amis ont pris la parole et ils ont dû répondre à certaines questions. Et là, on leur a dit carrément que ça, ce n'est qu'un film. La réalité, vous n'avez pas vécu ça ou vous n'avez pas vu ça. 2 jours, ces mêmes étudiants sont venus nous chercher à l'hôtel
Pardieu.
De la Pardieu, là où nous sommes partis à l'Université de Lyon 2, où on a occupé une salle appelée Amphicée Solidaire. Amphicée Solidaire, c'est l'ensemble des étudiants et des habitants de la Pardieu et certains enseignants qui se sont mobilisés et qui nous ont soutenus. Et voilà, il y a eu des associations qui se sont déplacées pour finir s'enquérir des réalités de l'Amphicée, des personnes de bonne volonté, des retraités même. Nous avons occupé l'Amphicée pendant un mois, 10 jours. Malgré ces problèmes, il y avait trop de pression sur la présidente de la dite université. Au début, elle ne voulait pas nous accepter. Et du coup, avec les étudiants qui se sont battus jusqu'à ce que nous sommes restés. Et elle avait trop de pression avec les autres amis de Lyon, de Lyon 1, de Lyon 3, et même la préfecture. Moi, je me suis dit, elle était entre le marteau et l'enclume. Vouloir nous expulser, c'est une mère de famille. Elle a pensé à ses enfants, peut-être. Et voilà, elle occupe une place dans une grande institution.
Donc, voilà, qui a occupé une autre place, hein, si elle n'est pas contente.
Bon, en tout cas, elle a fini par choisir l'expulsion.
Oui, on approche dans ce que tu racontes, les vacances de Noël.
Ça a coïncidé avec les vacances de Noël et du coup, elle ne pouvait pas nous laisser à l'université parce que c'est la fermeture des classes. Et du coup, si elle nous laisse, peut-être elle a peur de pouvoir, peut-être. Mais nous, nous sommes dit que nous ne sommes pas des enfants, on pouvait gérer ça en attendant le retour de la reprise. Et ils nous ont dit qu'on devrait quitter le lieu plus tard le 20. Ça coïncidait avec certains étudiants qui sont partis négocier avec d'autres personnes, hormis les étudiants de l'université. Et ils se sont entendus, ils ont trouvé un autre lieu pour nous. Et ce lieu est appelé actuellement Amphi-Z.
Alors, si tu permets, je ne vais pas te couper. Et juste une question, pourquoi le choix de l'Amphi-Z? Pourquoi pas l'Amphi, je ne sais pas, PY?
Le nom de l'Amphi-Z, tu veux dire? Ouais, alors ça c'est une sombre histoire. Je sais pas si on peut la révéler.
Peut-être.
Je sais pas qui a choisi ce nom. Une anecdote.
C'était très clairement le nom de l'Amphi-Z. Il a été choisi pour faire référence, bien sûr, à l'occupation de l'Amphi-Z, qui était une occupation politique d'un service public, sachant que un certain nombre des personnes qui étaient à la Part-Dieu étaient des demandeurs d'asile. Et on rappelle que l'État doit normalement loger les demandeurs d'asile. Donc c'était aussi un peu pour faire une spéciale case dédiée à l'occupation de l'Amphi-Z, en gros. Voilà.
Et puis surtout que aussi à la fac, il n'y a pas d'Amphi-Z, donc au moins il n'y avait pas de risque de...
Il
n'y
avait pas de risque. Alors,
on allait pas voir arriver des étudiants.
Le cheminement était très long.
Du coup, cet Amphi-Z, en fait, il est à Villeurbanne-QC. Hein, il appartient en grande partie au SDMIS. Il est en phase de passation à la métropole. Donc
disons que la vente a été suspendue par l'occupation.
Voilà. L'Amphi-Z tient toujours. Vous pouvez nous dire qui sont les habitants de l'Amphi-Z, leur statut en quelque sorte aujourd'hui, leur statut administratif, je veux dire.
La plupart des habitants de l'Amphi-Z, ils sont tous des demandeurs d'asile. Autrement dit, ils sont dans la procédure Dublin.
Alors, la procédure Dublin, justement, c'est un peu le sujet de ce dossier. La procédure Dublin, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la procédure Dublin et qu'est-ce que c'est qu'un Dubliné?
Donc, merci pour l'invitation à la radio.
Bienvenue.
Et je suis très ravi, n'est-ce pas, et de passer non seulement l'information concernant sur le problème de dublinage. Et bon, et du coup, moi, j'étais déjà en Italie. Je peux me référer juste, n'est-ce pas, sur mon histoire.
Quand bien sûr,
Italie,
bien sûr.
Voilà, OK. Donc, du coup, je suis venu en Italie. Je me suis dit que vraiment, et comme l'Italie, déjà, il y avait les conditions de vie n'étaient pas nécessaires pour moi, au fait. Donc, c'est ce qui a fait qu'au fait, je me suis déplacé pour être en France. Mais pour la première fois, quand j'étais en Italie, j'ai fait l'empreinte, au fait.
Voilà, comment ça s'est déroulé? Tu t'es fait contrôler par les forces de l'ordre?
Voilà, effectivement. Et donc, j'ai quitté l'Italie et par rapport, n'est-ce pas, à mes conditions de vie qui n'étaient pas prises en charge. Donc, du coup, je suis venu en France. Et là, quand je suis venu en France, j'ai fait l'empreinte. J'ai fait d'abord ma demande. Et quand j'ai fait ma demande, maintenant, ils m'ont contrôlé. Donc, ils m'ont dit que j'ai fait l'empreinte à l'Italie. Donc, le problème, c'est là où a commencé, n'est-ce pas, le problème de dublinage. Donc, le fait que déjà, j'ai fait l'empreinte en Italie, donc, j'ai fait déjà une demande d'asile.
Est-ce que tu le savais quand tu es arrivé en France ou quand tu t'es fait contrôler en Italie? Non, personne ne t'avait expliqué.
Non, personne ne m'avait dit. Et là, c'était un peu. J'avais un peu de nuances dessus. Donc, c'est quand je suis venu, maintenant, et j'ai fait l'empreinte. Et ils m'ont dit maintenant que ce n'est plus la peine. Donc, je suis dans le Dublin. Et c'est là où maintenant je me suis retrouvé, n'est-ce pas, dans le chaos, je peux dire comme ça.
Je crois que tu n'es pas la seule personne autour de cette table été prévenue de l'existence de la procédure Dublin.
Oui, pas du tout.
Un certain nombre de gens ici qui ont ce problème-là.
Pas du tout, pas du tout. Il y a certaines personnes, nous sommes nombreux quand même, nous sommes nombreux à l'AMPIZ, dont les personnes, n'est-ce pas, s'y sont retrouvées, n'est-ce pas, dans le Dublin. Et donc, c'est un problème qui n'est pas du tout facile parce que nous vivons dans ça, et malgré. Vous avez vu. Donc, du coup, si toutefois, et seulement Dieu peut nous sauver pour enfin qu'on puisse au moins être quitté dans le Dublin.
Mais parce que Dieu, la lutte collective.
Ou la lutte collective, voilà, en mettant une bonne pression sur un monsieur qui a un statut de préfet. On va y venir.
Oui.
Est-ce qu'il y a des raisons aussi, on peut avoir d'autres raisons quand on dit par exemple de retourner en Italie, de préférence, et pourquoi on a choisi de rester ici en France? Est-ce que aussi ça peut être aussi la langue, je ne sais pas, est-ce que ça peut être aussi cette facilité de communiquer avec même les autorités?
Voilà.
Moi, c'est une question que je me pose, après j'attends de répondre.
Je sais bien, sur cette question, et ce que vous dites, évidemment vous avez raison, parce que la langue italienne, c'est pas du tout facile. Et bon, la communication entre la population, n'est-ce pas, et nous les migrants, c'était pas facile. Vous avez vu, donc il y avait toujours des conflits, il y avait un problème de racisme, n'est-ce pas, qui s'imposait. Et partout, n'est-ce pas, on passait, et bon, c'était des injures, fanculo, bon, vous avez vu, c'est des termes souvent employés par les Italiens.
Ouais. Mais racisme qui a été confirmé par l'arrivée au pouvoir d'une coalition Salvini, d'extrême droite,
oui,
exactement.
Oui, Salvini. Donc du coup, bon, moi, j'ai pas pu gérer, au fait. Vous avez vu. Donc la langue m'a un peu fatigué. Vous avez vu, malgré que bon, je pouvais y communiquer, mais ce n'était pas du tout facile. Vous avez vu. Donc j'ai fait seulement que quelques mois. Après, j'ai rendu des missions à l'Italie. Là, maintenant, je me suis retrouvé en France. Et là, maintenant, sur le problème de la France, parce que là, je sais que la France, déjà, c'est un pays qui m'a colonisé. Au fait, je peux le dire comme ça, parce que je viens, n'est-ce pas, de la francophonie. Voilà, je suis de la Guinée. Bon, vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça. Et là, ici, la communication, je pense que je peux m'en sortir. Voilà. Et l'intégration aussi, je pense que je peux fournir assez d'efforts afin que je puisse au moins m'intégrer dans la société française. Vous avez vu, c'est un peu ça.
Du coup, justement, là, cette procédure Dublin, le préfet, il peut accepter de sortir des gens de la procédure Dublin selon une clause humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, justement, cette démarche-là et ce qui va être demandé mercredi lors de la manifestation qui est organisée, quoi?
Par rapport sur ce côté, bon, il y a des soutiens qui se sont retrouvés, ils ont parlé entre eux et du coup, ils ont décidé de consulter des avocats, des spécialistes dans la matière, en droit d'asile. Surtout quand je prends le nom de Maître Fréry, Jean Petit et je ne sais pas Noël comment ça va. Ils étaient au nombre de 8 qui nous ont beaucoup appuyés sur ce dossier. Ils nous ont dit pour que vous soyez vous quittez la procédure Dublin pour une procédure normale, c'est de monter des dossiers, d'expliquer combien de fois vos parcours. Et là, on a eu le courage de pouvoir discuter avec le soutien à l'AMPIZ lors d'une AG. Et du coup, c'est là-bas, on a eu il y a eu des commissions qui ont été créées pour pouvoir travailler sur ça, spécialement sur cette procédure. Et du coup, on a jugé nécessaire de faire une manifestation le 26 de ce mois pour pouvoir mettre pression sur la préfecture. Oh. Et
continue.
Pouvoir mettre pression sur la préfecture et de penser à nous parce que nous existons. Donc, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait une force de frappe avec tous les collectifs, pas seulement l'AMPIZ, avec toutes les associations de Lyon et les collectifs, les différents collectifs de Lyon pour soutenir l'AMPIZ sur ce projet.
Sachant qu'effectivement, cette demande, elle est accessible, comme je le disais, grâce à cette clause humanitaire qui laisse à la discrétion du préfet de sortir des gens de la procédure Dublin et donc de leur permettre de faire leur demande d'asile en France, sur des critères notamment des violences qu'ils auraient subies sur leur parcours et notamment en Italie, où on sait que les conditions de vie des primo-arrivants sont déplorables et qu'ils subissent le racisme, voire des violences chaque jour.
Voire du travail sous-payé ou non payé en Italie du Sud, dans des champs, etc. Donc on connaît les conditions absolument détestables et horribles que subissent les migrants primo-arrivants.
Voilà, donc c'est une revendication qui est largement accessible aujourd'hui et sur laquelle il faut essayer de s'appuyer un maximum aussi pour pouvoir faire un peu jurisprudence et obtenir des choses. À Paris, il y a des collectifs de sans-papiers qui obtiennent des régularisations massives grâce à leur lutte.
Alors à Paris, effectivement, c'est surtout des travailleurs sans papier, hein, mais qui font des demandes de régularisation. Il y a régulièrement des dépôts collectifs à la préfecture de Paris. C'est quelque chose qui fonctionne. Là, effectivement, est-ce que l'idée de cette manifestation, et il y en a déjà eu d'ailleurs des manifestations avant les vacances d'été, hein, il y a déjà eu des manifestations. Donc l'idée, c'est d'imposer, d'instaurer au moins un rapport de force. C'est ça, hein, pour que le préfet, à un moment donné, finisse par céder à cette revendication qui est vraiment dans ses possibilités.
Oui, exactement, c'est ça l'objectif. Mais après, je me posais une question, peut-être aussi les auditeurs même, parce qu'on a parlé de cette manifestation, mais est-ce qu'on peut nous dire exactement le lieu, parce que c'est important, et l'heure aussi.
Ça, c'est vrai.
Mais quelle bonne question.
C'est pas bête hein, comme information à donner.
Alors, donc, c'est mercredi 26 septembre.
26 septembre, oui.
Après vous
Mercredi, la date de la manifestation, elle est prévue le mercredi 26 septembre.
Où exactement ?
À la métropole, le départ, n'est-ce pas, de la métropole, et à 17h.
Alors, le départ, c'est à 15h30.
Voilà, le départ, c'est à 15h30. Et là, on se retrouve, n'est-ce pas, à la métropole à 17h. Et là, maintenant, on continue jusqu'à la préfecture.
Ouais, c'est ça. On se retrouve à la métropole à 15h30. On part en manif. On va jusqu'à donc, la préfecture à 17h. Et là, il y a un rassemblement devant la préfecture pour rappeler au préfet hein, qu'on est là et qu'on ne lâchera pas l'affaire sur la question du dédublinage.
Alors juste, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de dossiers à ce jour de personnes qui souhaitent sortir de la procédure Dublin ?
Il y a plusieurs dossiers à jour qu'on a déjà fini de travailler sur ça et on attend dans deux jours finaliser et
L'ensemble
de tous les dossiers et pouvoir déposer ça.
Ok, très bien. Bon, on donne rendez-vous à tout le monde mercredi à 15h30.
Venez en force, appelez vos potes, dites de venir. Il faut du monde, plus il y aura de monde et plus il y aura le rapport de force en notre faveur et en leur faveur surtout. On enchaîne peut-être alors ? Non ?
Et on enchaîne peut-être sur l'agenda.
Donc déjà, merci à vous deux d'être venus pour nous expliquer tout ça. Hein. Vraiment.
Et merci, force à vous aussi. On va continuer le combat et on va gagner.
Ouais.
C'est sûr. Merci beaucoup. Et donc, on passe au traditionnel.
Agenda.
Yeah. L'agenda. Du coup, il y a le rendez-vous mercredi, c'est après-demain, le mercredi 26. Premier rendez-vous à 15h30, on vient de le dire, à la métropole. Et si vous ne pouvez pas venir à la manifestation, vous pouvez toujours nous rejoindre au rassemblement à 17h devant la préfecture. Ensuite, avis à tous les étudiants, jeudi 27 septembre, Assemblée Générale sur le campus de Bron, donc de Lyon 2, contre la loi ORE. Rendez-vous à 14h au forum. Samedi 29 septembre, débat à la griffe avec Serge Quadrupani, auteur d'un livre qui s'appelle « Le monde des grands projets et ses ennemis, voyage au cœur des nouvelles pratiques révolutionnaires ». Et puisqu'il n'y a pas grand-chose, je vais un peu plus loin. Je rappelle, ce qu'on en a parlé tout à l'heure en plus, que le bar de la Caisse de solidarité, c'est jeudi de la semaine prochaine, jeudi 4 octobre, à l'atelier des canulars à partir de 19h.
Et je crois qu'on avait une retardataire qui avait peut-être un sujet à nous proposer sur la situation en Centrafrique.
Ça tombe bien, il nous reste 4 minutes, on est large, donc tu peux nous dire, raconter ton sujet.
Oui, en fait, en Centrafrique, comme vous le savez, actuellement, le climat, il n'est pas assez propice avec tout ce qui est persécution, combat et tout. Et actuellement, les autorités se sont données à un jeu qui est la vente ou le détournement des biens publics. Ils le vendent aux Libanais ou à d'autres personnalités à des prix débridants. On peut voir actuellement au niveau de la Centrafrique, déjà même à la capitale, où il y a plusieurs bâtiments publics qui sont bradés à des prix qui sont rien du tout, je dirais même pas 1 euro à 1 centime. Ils se partagent ces biens publics entre eux, les politiciens de chez nous, et comme quand on dit quand il y a la guerre, il n'y a plus d'ordre et chacun fait ce qu'il veut. Donc justement, là, on est en train de parler de ces biens qui étaient détournés. au profit de ces politiciens qui disent que ces biens-là sont en voie de disparition. On prend le cas de la cité STA qui a été vendue récemment, comme qui est derrière en fait l'ambassade des États-Unis, qui a déjà été récupérée par l'ancien président Michel Njonjota Amnokro, qui est et son ancien premier ministre Mahmoud Kamoun. Il y a encore d'autres biens comme le 4 blocs d'appartements qui étaient derrière le commissariat du premier arrondissement qui ont été vendus au Libanais Ali Akras à 35 millions de francs CFA le 27 juillet 2014. Et là encore, on a plusieurs bâtiments qui sont en vente. On a la résidence du préfet de Lombela-Poko, l'ancienne base des Chinois devenue magasin de construction de l'hôpital Domitien Bimbo, qui a été liquidée par le Britannique Richard Wansue, et elle est devenue le siège de l'actuelle ONG Béafrica. Donc en fait, les locaux d'office de réglementation et de la commercialisation et du contrôle de conditionnement des produits agricoles chez nous, OSCCPA, en face de l'ENERCA, qui est l'énergie centrafricaine, est aussi bradé à un ancien ministre à hauteur de 4 millions de francs CFA. Donc, à ce rythme-là, tous les biens publics qui n'ont pas encore été détruits par la guerre risqueront de se départager, soit entre les politiciens et les Libanais. Nous appelons aujourd'hui le président Touadéra à pouvoir prendre ses responsabilités et à laisser les biens des Centrafricains aux Centrafricains et non à se les partager entre ses amis politiciens et les Libanais. Merci.
Alors, et justement, là, pour terminer, hein, puisqu'il nous reste 30 secondes, aujourd'hui, on a appris que la France allait débloquer 130 millions de plus pour ce qu'on appelle l'APD, l'aide publique au développement. Donc, c'est censé être...